Sur Radio Primitive, nous avons eu l'honneur d'assister à une conférence sur le thème de l'immigration. Une conférence organisée par le réseau Mémoire et Histoire de l'immigration dans le Grand Est que nous avons le plaisir de vous partager aujourd'hui. C'est Zina Saïdi, doctorante en histoire à l'université de Reims, qui nous en parle.
Effectivement, je suis absolument ravie de pouvoir intervenir pour le réseau Mémoire et Histoire de l'immigration concernant cette thématique assez spécifique, qui est le corps des étrangers et des coloniaux. Donc, j'inscris ma lecture dans le XXe siècle d'une part, et surtout dans une lecture assez régionale qui est celle de notre région Grand Est. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis posé pas mal de questions que je vous soumets car elles restent ouvertes. D'abord, le corps des étrangers et des coloniaux. Comment entendre cette idée de corps? Comment le définir? Est-ce qu'il faut l'entendre dans le sens d'un objet historique? Est-ce qu'il faut l'entendre dans une espèce de vague idée qu'on projette dans le passé? Est-ce réducteur? C'est vraiment la question principale que je me suis posée, c'est-à-dire loin de moi la volonté d'essentialiser un groupe d'êtres humains. Et évidemment, la lecture me paraît assez novatrice, et vous le verrez parce que le corps est une certaine façon une bonne entrée dans la bonne compréhension des enjeux d'une part liés à la colonisation et à l'industrialisation. Vous le comprendrez assez rapidement. Donc, la meilleure façon pour moi de débuter ce sujet, et c'est cette image que je trouve de manière assez objective, plutôt fabuleuse. Alors moi, il y a un détail qui m'a intéressé tout de suite, c'est la date de cette photographie. Donc c'est une photographie qui a été prise dans un studio, et elle date de 1870. Et ça me permet tout de suite de contredire l'idée plutôt véhiculée dans nos imaginaires collectifs que l'immigration en France serait quelque chose de récent. En fait, non, la France, et notamment en fait notre région, j'y reviendrai, a toujours connu l'accueil, a toujours pratiqué l'accueil de l'étranger, de celui qui n'est pas né par ici. Donc ce n'est pas quelque chose de récent qui daterait des années 80 ou des années 60. Là, on est carrément au 19e siècle. On a une photographie assez intéressante. C'est une photographie militaire. En 1870, pour rappel, c'est la guerre contre la Prusse. Et effectivement, la France va piocher dans ses ressources humaines coloniales pour défendre la ligne de front. Et donc, on a des tirailleurs. Donc, c'est le nom qui est donné aux troupes venues de la colonisation. On a donc un capitaine au centre de la photo. Et à sa droite et à sa gauche, un tirailleur sénégalais et un tirailleur algérien. Alors l'algérien, il est installé la clope à la main, tout à fait ferme sur ses appuis, tout comme le tirailleur sénégalais. Alors c'est ça qui m'intéresse, c'est ces corps tels qu'ils sont disposés sur cette photographie. J'ai cette impression qu'on a tout en fait sur cette photographie, mais en réalité, c'est tout ce qu'on attendait d'eux. C'est-à-dire que les étrangers, les coloniaux, tels qu'ils s'installent dans le Nord-Est, on attend d'eux un corps en bonne santé. Il est hors de question d'avoir des étrangers ou des coloniaux instables physiquement, disons, et surtout psychologiquement. Donc, cette photographie, elle va être diffusée. J'y reviendrai et je la détaillerai davantage, mais je voulais évidemment vous la partager, disons, en introduction. Alors, l'histoire de l'immigration que je m'apprête à aborder, elle est complexe. Elle est complexe pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est une espèce d'histoire mouvante. C'est-à-dire que l'historien qui se retrouve à étudier ces personnes se retrouve à devoir maîtriser un contexte, disons, strictement temporel, mais aussi un contexte spatial, car ce sont des gens qui bougent, donc qui pratiquent la traversée de territoires, de frontières. Donc, en géographie, on parle de spatialité, par exemple, c'est la façon dont le territoire s'expérimente. Eh bien, tout ceci est différent selon d'où l'on vient et selon où on s'installe et dans quelles conditions on s'installe. La deuxième raison pour laquelle cette histoire est plutôt complexe, c'est que je ne vous fais pas ici l'histoire d'un homme qui aurait une naissance et une mort. Je ne vous fais pas l'histoire d'une guerre, disons, qui est bornée chronologiquement. Cette histoire, elle a un début, même si j'ai tendance à croire que l'homme, par principe, est mouvant depuis toujours. Mais donc, elle n'a pas de fin pour le moment, cette histoire de l'immigration en France. Continue d'être pratiquée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des allers-retours, il y a des traversées de frontières qui se font à l'heure où je vous parle. Et troisièmement, et disons, c'est la complexité qui, à mon sens, me semble la plus importante à souligner, c'est l'idée selon laquelle ces histoires, disons, ces destins très particuliers sont marqués par de l'émotion. Donc, on est dans une histoire mouvante et émouvante parce que vous l'entendez probablement dans les discours actuels. Parler de colonisation n'est pas simple, parler d'immigration n'est pas simple et c'est souvent sur le chemin de débats, de polémiques et de revendications. Donc, c'est évidemment, ça fait écho à une histoire plutôt agitée. Alors, vu que rien n'est simple, j'ai décidé de mobiliser Pierre Bourdieu pour complexifier un peu mon entrée. Et effectivement, cette explication me parle beaucoup. C'est comme ça, disons, que ça va être ma boussole un peu durant mon développement. Il explique que le corps fonctionne comme un langage par lequel on est parlé. Alors évidemment, je vous ai posé ces questions en début d'intervention, comment interpréter ces corps? Parce que, sachez-le bien, il n'y a rien de plus intime, de plus personnel qu'un corps. C'est-à-dire que c'est notre toute première propriété quand on arrive sur cette planète qui nous accompagne jusqu'à notre mort. C'est très intime, c'est très personnel. Donc, comment lire ces objets inscrits dans ce passé très agité? Eh bien, j'ai pas envie de les lire comme si c'était des espèces d'autopsies qu'on découpe comme ça, disons, aux yeux de tous, mais plutôt comme un langage, c'est-à-dire comprendre le corps tel qu'il s'inscrit dans son contexte. C'est ce que sous-entend Pierre Bourdieu. Il explique qu'un corps produit des choses, car c'est une chose vivante, donc il fait des actions, et en retour, il y a des regards. Alors, en sciences sociales, on ne parle pas de regard porté sur un phénomène, donc en l'occurrence sur une personne, on parle plutôt de représentation. C'est un terme que je vais remobiliser plutôt fréquemment. Alors, pourquoi le corps? En fait, le corps, c'est ce que je vous expliquais. Le corps, c'est la porte d'entrée pour la colonisation. La colonisation, donc la France au XXe siècle, se veut l'espèce de mère d'un empire qui ne meurt jamais. Et donc, la façon la plus efficace que la France va trouver pour s'imposer sur des territoires, c'est de soumettre des peuples. Et donc, pour soumettre ces peuples, elle passe par le contrôle de ces corps. Cela vaut dans les territoires colonisés, mais également en métropole. On parle de métropole, disons, pour la France coloniale. L'industrialisation, c'est à peu près le même procédé. Pas la même violence, mais disons, c'est la même idée. C'est-à-dire que on est dans un siècle qui se présente comme étant le siècle de tous les progrès, mais ces progrès ne seraient pas possibles sans la mobilisation de ressources humaines, donc typiquement de corps d'ouvriers et d'ouvrières qui vont travailler pour la nation, en fait, qui va se développer particulièrement dans notre région. Donc, vraiment, bref rappel. J'ai envie de dire de géo-histoire. Idriss l'a dit, c'est vrai que je suis particulièrement attachée à Reims, étant rémoise moi-même, mais les gens du Nord-Est ont tendance à croire que nos territoires sont le centre du monde. Mais là, pour le coup, au XXe siècle, j'ai quand même à l'objectivité de vous dire qu'il y a une part de vérité. Parce que le XXe siècle est complètement bouleversé. Vous connaissez l'histoire un peu de ce siècle, notamment par les guerres mondiales. Et les tout premiers témoins de ces grandes mutations, eh bien, c'est les habitants de ce nord-est, c'est-à-dire que c'est la ligne de front. Et puis, ce sont des territoires que je trouve assez particuliers parce qu'ils ont un aspect, en tout cas au XXe siècle, provisoire. C'est-à-dire qu'ils sont comme inscrits dans un espèce de carrefour transitionnel où les gens traversent et retraversent les espaces, où il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Et donc, il y a un aspect assez particulier à vivre dans ces régions-là durant ce siècle. Il y a la proximité de la capitale, certes. Il y a la proximité de ce qu'on appelle les bassins houillers. En fait, c'est les mines du Nord qu'on trouve aussi en Belgique. Et bien sûr, toutes ces frontières qui mènent vers l'Allemagne, vers la Belgique, le Luxembourg. Donc, c'est une richesse très importante pour ces régions-là. Et d'un point de vue, disons, industriel, qui dit guerre mondiale dit déconstruction, c'est-à-dire que ces territoires ont été complètement détruits. Ils portent en eux un espèce de traumatisme physique encore très présent aujourd'hui. Et donc, ça a, d'une certaine façon, je pense, complètement accéléré l'industrialisation dans ces zones, de façon presque obligatoire, par nécessité, d'une certaine façon. Dernier point, la définition quand même, pourquoi étrangers, pourquoi coloniaux? J'aurais pu m'arrêter à étrangers, mais au XXe siècle, ce n'est pas du tout la même réalité. C'est-à-dire qu'il faut bien entendre que quand je parle de corps, je parle aussi de peau. C'est-à-dire qu'un corps blanc n'est pas un corps noir. Et encore une fois aussi, un corps d'homme n'est pas un corps de femme qui n'est pas un corps de vieillard ou d'enfant. Donc les réalités que je vais vous proposer d'explorer aujourd'hui ne sont pas les mêmes, en tout cas ne sont pas vécues de la même façon selon ce qu'on est, en fait. Les étrangers, cela fait plutôt référence aux Portugais, aux Espagnols, aux Belges, aux Italiens, aux Polonais, aux Britanniques, tandis que par le terme coloniaux, ça fait référence aux peuples colonisés. Donc en l'occurrence, les Sénégalais, par exemple, en 1914, il y a 8 000 Sénégalais qui arrivent dans le sud de la France, qui sont tout de suite envoyés en Champagne pour les combats. Donc les Sénégalais, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Indochinois et les Malgaches, évidemment.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Primitive et à l'écoute de la conférence sur le thème « Le corps des étrangers et des coloniaux » proposée par le réseau Mémoire et Histoire de l'immigration dans le Grand Est, aux côtés de Zina Saïdi, doctorante en histoire à l'Université de Reims.
Donc, pour vous proposer une lecture précise, j'ai découpé mon intervention, disons, en trois entrées. D'abord, la question de la mobilisation du corps. C'est un peu ce que je vous sous-entendais dans cette introduction. L'idée qu'il faut apporter une plus-value, un bénéfice à la nation dans laquelle on s'installe quand on arrive au XXe siècle. La question de la déshumanisation du corps. Et enfin, la question de l'imaginaire, je parlais de représentation, c'est-à-dire que cette déshumanisation, cette mobilisation du corps n'est possible que par la diffusion d'images qui participent à un imaginaire d'accessibilité de ces corps étrangers et coloniaux, donc dans notre région. Alors, j'ai envie de commencer cette réflexion par l'idée selon laquelle le corps mouvant, c'est d'abord un corps absent. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à lire l'histoire de l'immigration par l'arrivée, c'est-à-dire qu'on connaît parfaitement les histoires des étrangers et des coloniaux par leur arrivée au port de Dunkerque, au port de Marseille, dans les gares, celles de Roubaix, celles de Reims ou alors sur le tarmac parisien. Mais je me suis toujours demandé et je me suis toujours posé la question, qu'en était-il de l'avant? Qu'en est-il de ce qu'on laisse derrière, des familles qu'on laisse derrière? Et effectivement, en fait, pourquoi je vous parle de corps absent? Parce que à partir du moment où le cousin, le mari, l'oncle, le fils, et je parle volontairement d'homme, quittent la famille, eh bien, il y a une absence tellement palpable que je suis obligée de vous la mentionner. Je vous ai inséré la photographie d'un village, donc Kabyle, sur les hauteurs des montagnes algériennes. Et donc, il faut imaginer, et ça vaut pour la Kabylie, mais pour tous les espaces ruraux du XXe siècle, c'est-à-dire que la vie dans le village est très fermée. C'est-à-dire que quand on est dans un village, on y grandit, on y travaille, on s'y marie, et typiquement, on y meurt. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est impensable de quitter le village parce que c'est rythmé, c'est organisé, et c'est assez cloisonné à ce moment-là parce que l'accessibilité n'est pas encore développée par les infrastructures de transport, donc c'est très fermé. Donc, d'abord, l'immigration, c'est-à-dire quitter sa famille et ses habitudes, c'est quelque chose de très. On parle d'exode rural. Donc, c'est quelque chose de très progressif. On quitte le village pour rejoindre la ville la plus proche. Et c'est déjà un saut dans le vide, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de partage d'expérience. C'est-à-dire que peut-être qu'on a entendu parler du cousin qui est allé dans la ville ou dans la capitale, mais sans plus. Et il y a toujours l'idée que. Quand on quitte le village, et c'est encore vrai aujourd'hui, on y revient, au moins à la fin de sa vie. Donc, on quitte le village pour rejoindre la ville. Ensuite, arrivé en ville, on découvre des opportunités. Il y a beaucoup de patrons français qui embauchent dans les contrées espagnoles, algériennes, même en Pologne. Donc, on découvre des opportunités. Et là, pourquoi pas tenter la grande traversée, ce saut dans le vide, ce saut vers l'inconnu, et donc rejoindre une usine du Nord-Est. Donc, vous voyez, c'est assez progressif. Et l'idée, c'est qu'il est impensable de laisser sa famille sans que celle-ci ne soit dans l'attente d'une économie. C'est-à-dire que oui, on peut quitter le village, on peut quitter la famille, mais ça doit être un apport dans le retour, effectivement. Donc, il y a un sociologue qui a d'ailleurs travaillé avec Pierre Bourdieu. Il s'appelle Abdelmalek Sayed. Je vous conseille vivement ses travaux sur l'histoire de l'immigration algérienne. Et il a détaillé un peu ce principe qu'on retrouve parfois dans certains villages kabyles aujourd'hui. Bon, c'était particulièrement visible début XXe siècle. Typiquement, dans ce genre de village dont la photographie vous est projetée, plus l'immigration va s'accentuer, plus ce phénomène sera visible. En hiver, le bruit disparaît, la vie s'éteint complètement, les volets se ferment, les maisons sont complètement closes. Mais tout reprend vie en été. En fait, il y a ce principe de saison qui va s'installer, et ça, on le voit dans les rapports aux archives, c'est-à-dire que les ouvriers les plus précaires, bien souvent, ce sont les saisonniers et les journaliers qui sont trimballés d'usine en usine, mais en fait, qui entre ces moments de non-travail reviennent parfois dans leur village, et donc il y a ces allers-retours qui font que parfois le village s'éteint et se rallume. Néanmoins, je vous ai mentionné le voyage de ces hommes, car effectivement, c'est principalement d'abord une main-d'œuvre masculine. Les femmes ne traversent pas, ne prennent pas ce risque au début du XXe siècle. Mais dans ces villages, il y a toute une réorganisation quasi matriarcale. Les femmes, les mamies, les cousines, les sœurs prennent les décisions au rythme des saisons, reprennent la culture et la plantation dans l'attente de recevoir les économies envoyées par celui qui a osé partir. Et je vous parlais de corps absent, parce que parfois, évidemment, celui qui est parti ne donne plus de nouvelles, pour plusieurs raisons évidentes. La mort, c'est-à-dire que quand on rejoint le Nord-Est, c'est quand même le risque d'être enrôlé dans les guerres mondiales qui traversent le siècle. La mort à l'usine, parce que j'y reviendrai, les conditions sont pas optimales pour la bonne santé. Et parfois, on a des étrangers, des coloniaux, une fois installés dans le Nord-Est, vont expérimenter des relations humaines différentes, parfois même des sexualités différentes, qui fait que ils n'ont plus envie du tout d'avoir un lien avec leur vie d'avant, donc avec leur famille d'antan, si je peux présenter les choses comme ça. Et donc, dans ce genre de village kabyle, il y avait des espèces de cérémonies. C'est plus trop pratiqué aujourd'hui, mais on trouvait ça beaucoup il y a quelques années. Donc, la femme la plus âgée se rend sur le rocher, le caillou le plus haut du village, et va implorer la nature dans son intégralité, comme pour réanimer l'absent qui ne donne pas de nouvelles. Ça, c'était vraiment très pratiqué, et c'est pour vous expliquer qu'un corps qui bouge, c'est avant tout un corps qui quitte, et donc un corps absent. Alors, évidemment, loin de moi l'envie de déprimer un peu l'assemblée, mais par honnêteté intellectuelle, je suis un peu obligée de dépeindre des quotidiens qui ne sont pas simples, qui sont même plutôt tristes. Et effectivement, je vous disais que parfois, il est tout simplement impossible de revenir dans notre terre d'avant parce que la mort nous a trouvés. Et c'est particulièrement le cas dans le Nord-Est, évidemment. Et ces corps morts ont fait l'objet de débats. C'est-à-dire que, et je me suis souvent posé la question, en fait, c'est vrai que j'ai cette, sûrement co comme d'autres historiens, mais j'ai cette drôle habitude de me balader dans des cimetières militaires qui sont très nombreux dans notre région. Et je me suis souvent posé la question, qu'en était-il de ces corps morts? Est-ce que, en tout cas étrangers, est-ce que les familles qui sont restées de l'autre côté les réclament? Est-ce que certaines personnes continuent à se recueillir sur ces tombes aujourd'hui? Et c'est vrai qu'il y a eu de grosses polémiques, en fait, au moment de la Grande Guerre notamment. C'est-à-dire que quand les étrangers et les coloniaux sont morts, ont ramassé leurs ossements, une fois la guerre terminée, pour ériger des sépultures, pour les remercier, en fait, pour leur sacrifice pour la République. Mais les familles réclamaient de manière très intense ces corps disparus. Sauf que, bon, ça a fait des espèces de gros débats juridiques un peu compliqués et tristes. Et je me suis également posé la question, est-ce que le corps mort étranger, dans sa culture différente, donc par culture j'entends religion, était respecté? J'ai sorti ma boussole face aux tombes musulmanes. Là, c'est le cimetière militaire de Sillery, c'est celle qui est tout à gauche. Si vous allez à la nécropole de Suippes, elles sont vraiment très nombreuses, c'est vraiment impressionnant, alignées comme des soldats les unes à côté des autres. Et donc, j'ai sorti ma boussole pour voir si ces tombes étaient dirigées vers la Mecque, comme le veut la tradition musulmane. Évidemment, c'est rarement le cas, mais je me suis quand même interrogée, je me suis dit, la France a quand même fait l'effort disons, de leur rendre hommage. Alors, comment les inhumations se déroulaient? Comment ces corps morts étaient enterrés? Et donc, concernant les musulmans qui m'ont intriguée, le linceul, et c'est-à-dire c'est cette espèce de drap blanc qu'on met sur les corps musulmans, était effectivement mis. Donc, il y avait quand même un respect disons de la foi de la personne, même si effectivement il y avait quand même ces complexités apparentes. Je vous ai mis cette affiche du film dans lequel Omar Sy joue, Tirailleurs, parce que la scène de fin suggère une hypothèse qui m'avait jamais traversé l'esprit, donc je me permets de vous en faire part, peut-être que vous vous en souvenez. La scène de fin suggère que le soldat inconnu sous l'arc de triomphe serait le squelette d'un tirailleur sénégalais. Et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Et il y a le squelette a l'avantage de délivrer un message clair qui est mort pour la patrie, peu importe d'où l'on vient finalement. Et c'est vrai que C'est cette question du corps dans sa vie comme dans sa mort, donc de l'avant, du pendant et de l'après, tel qu'il s'inscrit dans ces régions très agitées. Et donc, c'est ce que je vous disais, et je reviens sur cette photographie que j'aime particulièrement. Lorsque l'étranger ou le colonial arrive dans le Nord-Est, il doit servir à quelque chose. Si ce n'est pas servir une nation, c'est servir un patron. C'est-à-dire que dans tous les cas, le corps de l'étranger, qu'il soit polonais, italien, espagnol, algérien, sénégalais, il doit servir à quelque chose. Il ne peut pas être inactif, il ne peut pas être malade, il ne peut pas prendre le risque d'être en bonne santé, et s'il est mort, il est mort. Donc cette photographie, en fait, s'inscrit, donc pour rappel, 1870, guerre contre la Prusse, dans une volonté de représenter les corps coloniaux comme étant des corps dignes. Et là, on peut tous s'accorder sur l'idée qu'ils paraissent plutôt en forme, fermes sur leur appui, plutôt dignes, même si on peut se questionner et se demander que pensent-ils réellement? Est-ce qu'ils étaient consentants à prendre cette photo? Là, ils ont l'habit militaire qui est codifié. Donc, les tirailleurs algériens, on les surnommait les turcos. Donc, l'habit du turco, c'est ce petit veston avec le pantalon rouge, avec la ceinture. Tout est normé. Mais la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, pendant la guerre, le tailleur n'était pas repassé, il était plein de boue et c'était pas aussi digne. Mais pourquoi les représenter aussi fort et d'une certaine façon aussi héroïque? À mon sens, pour plusieurs raisons. D'abord, pour les rassurer, eux, les coloniaux, les étrangers. En fait, il y a des rapports militaires qui disent, dès leur arrivée, le moral est à plat. On imagine que c'est compliqué de quitter le fin fond du Sénégal ou le fin fond du Maroc pour débarquer dans ces vallées très froides du Nord-Est pour défendre apparemment un ennemi qu'on découvre un peu sur le tas. Donc le moral était à plat. Donc c'était presque une nécessité pour les autorités françaises que de les représenter de cette façon héroïque, parce que c'est d'une certaine façon, c'est pour les remercier de ce sacrifice dont les autorités ont conscience. Deuxième raison de cette représentation, il y avait la volonté de rassurer les populations locales, pour qui, et c'est dans certains villages très reculés de la Marne, pour qui c'est un des premiers contacts avec quelqu'un qui ne serait pas né dans les environs. Donc, c'est une façon de dire, en gros, on recrute des gens qui ne vous ressemblent pas, mais ne vous inquiétez pas, ils défendent les mêmes intérêts que vous. C'est ça l'idée. Troisième raison, c'est, et celle-ci a fonctionné, l'idée, c'était de montrer à l'ennemi que les troupes, quand bien même elles viennent d'ailleurs, elles sont déterminées. Et cette idée, évidemment, va être, j'ai envie de dire d'une certaine façon, saupoudré de racisme, parce que les Allemands, pendant la Grande Guerre, on va être complètement tétanisés des soldats, notamment noirs. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de peur qui va naître chez les soldats allemands envers ces corps noirs. Ils vont avoir des réputations absolument sordides, du genre coupeurs d'oreilles, mangeurs d'organes sur le front. Bon, évidemment, ça nous rappelle l'argumentaire assez bestial qui est présent très souvent dans les discours xénophobes. Le soldat, le turco, le tirailleur algérien, va hériter au début, en tout cas fin 19e, va hériter d'une réputation qu'on associe aux soldats arabes, des cavaliers que rien n'effraie, dont la détermination n'a pas de limite. Donc ça, c'était les représentations des corps tels qu'ils l'étaient à la fin du 19e siècle. Mais finalement, évidemment, ces soldats cohabitent avec les populations locales. Donc, d'une certaine façon, les corps héroïques deviennent des corps très accessibles. Ils sont parmi la population, ils fréquentent les bistrots, les cafés, ils vont dans les mêmes épiceries, parfois même ils sont habités, enfin ils sont accueillis, pardon, dans les chaumières, dans des villages du Nord-Est. Et donc, ils sont mélangés, ils sont dans une cohabitation plus ou moins sereine, mais cette cohabitation suggère que, finalement, ces soldats ne sont pas si héroïques que ça. C'est-à-dire qu'ils sont humains. Ils sont humains. Ils ont leurs défauts. Ils sont fatigués. Ils reviennent tout boueux et cassés du front, évidemment. Voilà. Il y a toute une démystification qui va se mettre en place. J'aime beaucoup cette peinture de Van Gogh qui représente, il a sous-titré le zouave. En fait, c'est le nom d'une infanterie composée de tirailleurs algériens. On dirait presque, en fait, le même personnage que notre photographie. On reconnaît les coutures, on reconnaît presque la même moustache, mais en fait, on voit qu'il est complètement abattu. Il a le chapeau qui tombe, on l'imagine que c'est une fin de journée. On imagine parfaitement le peintre dégainer son carnet de croquis au détour d'une boisson pour le représenter très rapidement, donc c'est plutôt réaliste, avec les jambes écartées, ce qui témoigne d'une grande fatigue. Donc, mon propos, c'est le suivant, c'est de faire comprendre que les représentations vis-à-vis de ces de ces inconnus évoluent au fil du siècle. Et qui dit évolution au fil du siècle dit une xénophobie qui va s'installer, car je vous explique. En fait, il y a un effet ricochet, c'est-à-dire qu'au fil que la colonisation va se déployer, au fil que l'argumentaire colonialiste se déploie de manière très violente de l'autre côté de la Méditerranée, en métropole, on va avoir des images aussi et des espèces de discours, des rumeurs qui vont circuler parmi les populations. Donc c'est d'abord l'idée du turco sympathique, de la gueule cassée qu'on vient soigner, et cette dernière photographie datant de 1914, on pourrait la trouver plutôt innocente, mais ça s'inscrit dans ces discours assez paternalistes qui viennent accompagner les étrangers tout au long du siècle, c'est-à-dire ils ne parlent pas français, ils sont perdus, ils n'arrivent pas à s'acclimater à l'environnement. Donc il y a tout un discours paternaliste, mais bon, on connaît un peu les dérapages du paternalisme, jusqu'où ça peut mener. Et pour faire clair, il n'y a pas plus simple comme exemple. En 1870, quand ces Turcos reviennent du front, ils sont applaudis, on leur lance des fleurs, vraiment ils sont acclamés comme des stars. Alors que quand ils rentrent de la Grande Guerre en 1919, plus qu'une indifférence, c'est du mépris qu'ils vont subir. Donc on voit qu'il y a un rapport de force qui s'installe un petit peu sur ces populations.
Radio Primitive, passez une belle journée à l'écoute de Zina Saïdi, doctorante en histoire à l'Université de Reims, et de sa conférence sur le thème « Le corps des étrangers et des coloniaux » pour le réseau Mémoire et Histoire de l'immigration dans le Grand Est.
Comme je le sous-entendais, on est dans une région industrielle, mais très forte, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'industries qui vont ouvrir leurs portes, et d'autant plus pendant la guerre, c'est-à-dire que les guerres totales, première et deuxième, ne fonctionnent que grâce à la multiplication de travaux. C'est-à-dire que les obus doivent être construits, doivent être peints, doivent être envoyés au front. On a tous en tête l'image des munitionnettes qui travaillent d'arrache-pied pour produire énormément, énormément de matériel. Mais qui dit guerre dit aussi infrastructures type abris, ponts, télécommunications, routes. Donc tout ceci, évidemment, était construit par des ouvriers pendant les guerres, et notamment pendant la Seconde Guerre, et ça c'est assez intéressant. Pendant la Seconde Guerre, vous savez que notre région est occupée par le Reich, par l'Allemagne, et le Reich va utiliser ses prisonniers pour construire toutes ces infrastructures nécessaires à la guerre, et ce sont principalement des prisonniers étrangers, qui ne parlent pas français ni allemand en fait. Donc des Italiens, des Portugais, des Algériens qui vont construire toutes ces choses. Donc en tant que prisonniers, ils sont détenus dans des espèces de camps qu'on appelle des fronts de stalag. On en trouve à Nancy, à Vesoul, à Saint-Quentin. Donc c'est assez présent dans notre région. Et je vous parlais de mythes déshumanisants pour le soldat noir. Très fréquemment, les soldats noirs vont être tués par les Allemands. Ils vont pas servir à la construction, ils vont être tués, et c'est des tueries qui sont justifiées aux yeux des Allemands par la crainte du mythe qui a été érigé aux guerres précédentes. Mais dans les moments hors guerre, l'industrie continue de tourner. J'ai trouvé ces photographies aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix. Vous me pardonnerez, je dévie un peu vers le nord, mais parce que ces photographies sont quand même assez intéressantes. Vu comme ça, si je vous avais pas mis de titre ou de sous-titre, on aurait pu croire que c'était des prisonniers ou des gens qui sortent d'un commissariat qui auraient posé pour la police. Mais en fait, non, c'est bien des ouvriers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des femmes et des hommes, et surtout venus de tous les ailleurs. Il y a une Belge, un Hongrois, un Marocain, un Tunisien, un Italien. Et en fait, il y avait cette cohabitation, et ça, c'était visible dans tout le Nord-Est. Il y avait cette cohabitation dans les usines où, moi qui vous dépeins un quotidien plutôt difficile, il y avait quand même des moments de franche camaraderie où, disons, la lueur dans les yeux se retrouvait un peu par ces moments d'échange quand on se rend compte que, on vit la même expérience, il y a une intimité qui se crée et le corps redevient digne un peu par ces existences-là. Et il y a des quotidiens assez compliqués pour ces étrangers. Il y a un Italien qui est mentionné dans cette photographie. Ça me permet de vous rappeler, enfin de vous raconter une anecdote que j'ai lue dans les archives de Reims. J'imagine que c'est durant une patrouille de police qui surveillait les vagabonds qui étaient énormément surveillés à l'époque. Donc dans le cadre d'une patrouille à Reims, en 1928, les policiers ont trouvé un très très jeune Italien dormant sur les bancs de la gare. Donc on imagine le froid. Idriss, tu parlais de neige. On imagine les conditions complètement horribles à dormir dehors dans ces conditions. Et donc ce jeune Italien dormait dehors. Il est immédiatement interpellé par la police. Et ce jeune Italien, âgé de 16 ans, leur explique que, en fait, le patron m'a viré, je le cite, le patron m'a viré car il n'a plus de place. Et en gros, cet Italien était condamné à faire des allers-retours entre l'extérieur, dormir en extérieur et quand même continuer à servir son patron. Et je ne sais pas ce qu'est devenu ce jeune Italien, mais la fin du rapport indique menacé d'expulsion. Donc, le train de vie ouvrier est particulièrement compliqué. Mais notamment pour les étrangers et les coloniaux, il n'y a pas de doute sur ça, il y a une inégalité des corps qui s'installent de par leur insertion dans un contexte inégalitaire, en fait, qui est celui de la France du XXe siècle. Donc, cette déshumanisation des corps se lit dans les conditions de travail. Il y a cette revue, L'assiette au beurre, que je vous invite à aller lire. Elle est disponible en ligne sur Gallica. Donc c'est la BNF, elle date du 19 janvier 1907. Pourquoi j'ai choisi cette revue? D'abord parce que je trouve les dessins vraiment vraiment bien faits, vraiment sublimes presque, c'est-à-dire que là il y avait une volonté de la part de l'éditeur de représenter les métiers qui tuent. Donc les mots sont forts, c'est écrit en majuscules, c'est-à-dire que on est dans un moment où la mortalité au travail est absolument grande car les conditions ne sont pas réunies pour les ouvriers. Notamment dans le nord, étant donné le climat, pour avoir une bonne santé. Donc là, on a un ouvrier vêtu de ses sabots qui semblent plus lourds que lui, car il propose un corps très squelettique, un regard éteint, on dirait presque qu'il est mort. Et donc cette assiette au beurre va sélectionner comme ça plusieurs métiers jugés à risque, pire, jugés mortels. Si je me souviens bien, il y avait les métiers liés à la métallurgie, les allumetières, donc celles qui fabriquent les allumettes, on leur doit constamment dans l'eau froide. Donc ça mène à des problèmes chroniques comme des anémies, des courbatures. Et parfois pire, des cancers ou des maladies donc mortelles. Il y a aussi le métier lié aux égouts, où très souvent les ouvriers sont emportés par les flots. Et il y a cette image qui m'a fait penser en fait à l'état du Nord-Est post-guerre, c'est-à-dire que la reconstruction, c'est-à-dire qu'en fait, pour être très clair, notre région telle qu'elle est aujourd'hui, plutôt belle, plutôt bien entretenue, avec de beaux bâtiments bien solides, eh bien, c'est le fruit d'un travail collectif, mais difficile, qui est celui donc des ouvriers qui ont été mobilisés pendant cet effort de reconstruction. Donc, il y a eu une embauche complètement importante, d'abord au sein même de la région Nord-Est, mais ils ont multiplié les contrats en allant directement chercher en Algérie, au Maroc, en Pologne, une main-d'œuvre étrangère. Mais là se pose la question de pourquoi la main-d'œuvre étrangère, pourquoi cette main-d'œuvre coloniale? N'y avait-il pas des Français qui voulaient travailler? Et là, je m'appuie sur un rapport d'un inspecteur qui a beaucoup écrit au sous-préfet de Reims dans cet entre-deux-guerres, donc c'est le moment de reconstruction. Il écrit, si j'arrive à me souvenir de ces mots, que l'ouvrier étranger est capable de subir des conditions que le français n'est pas capable. L'idée qui est présentée dans les rapports de ces sous-inspecteurs, de ces inspecteurs tout court, c'est que les conditions étaient tellement misérables, que ce soit les conditions de travail, mais aussi les conditions de vie, parce que bien souvent, ces ouvriers vivaient les uns avec les autres dans des espèces de gourbis ou d'hôtels particuliers, ou parfois dehors, où agissait l'humidité et l'insalubrité. Et donc, tout ceci était accepté par la main-d'œuvre étrangère, mais pas par la main-d'œuvre française. Donc, la revue se termine sur cette triste image que j'ai voulu vous présenter parce que y a ces corps éteints, en fait, et ces corps éteints par l'industrialisation, par la fatigue. Mais vous avez sans doute une question qui vous traverse l'esprit. Pourquoi l'immigration augmente? Pourquoi, au fil que le XXe siècle se déroule, au fil que l'industrialisation explose avec ses cadences et sa pression, disons, productiviste, pourquoi l'immigration continue si les conditions sont tellement horribles? En fait, il faut comprendre que parfois, la vie dans une ferme enclavée en Pologne ou la vie dans une colonisation violente dans le fin fond de la Kabylie, on se dit que ça vaut peut-être le coup de tenter sa chance et son expérience dans le Nord-Est et en France de façon générale. Donc la réaction de ces corps, et là ça concerne toutes catégories confondues, femmes, enfants, vieillards, étrangers ou non, la réaction des corps face à cette lourdeur du travail industriel, c'est la mécanisation. Donc, on pense souvent que la mécanisation va soulager le travail ouvrier. C'est pas vraiment vrai, ça va le rendre plus difficile et les ouvriers vont devoir finalement s'aligner sur l'efficacité de ces machines. Et donc, ils vont leur action, leurs réflexes vont être complètement robotiques et mécaniques. C'est comme ça qu'ils arrivent à tenir un peu le coup. J'ai pas le temps de m'attarder sur la santé mentale, mais c'est évidemment un pan de l'histoire, car quand on parle de corps, on parle aussi d'esprit. Donc c'est un pan de l'histoire qui est absolument intéressant. Donc je vous sous-entendais tout au long de mon développement que il y avait quand même des moments dignes. Faut pas imaginer non plus que les étrangers et les coloniaux étaient condamnés à périr dans le fin fond d'une tranchée, à mourir à l'usine ou alors à déprimer dans la rue. Certes, le quotidien était marqué quand même par une grande misère. Il faut vraiment s'accorder sur cette idée-là, mais il y avait quand même des moments lumineux. Et ça passe par deux choses, le collectif et l'engagement. C'est-à-dire que c'est dans ces moments précis que c'est comme si le corps reprenait vie. Ça commence en fait timidement, c'est-à-dire que c'est un peu du réflexe humain. Peut-être que vous l'avez expérimenté vous-même, quand on quitte ses habitudes et qu'on en retrouve d'autres qui sont complètement inconnus, le premier réflexe, c'est soit de trouver des gens qui vivent la même chose que nous, soit de trouver des gens qui parlent notre langue. C'est ce que faisaient c'est ce que faisaient ces main-d'œuvre. Donc, Benjamin Stora, il a une formule qui est assez intéressante pour montrer cette mise en réseau rapide. Il parle de village. C'est-à-dire que au sein de grandes villes, notamment à Paris, à Lille, à Lyon, à Roubaix, à Strasbourg, des espèces de villages se mettent en place. C'est-à-dire que les Italiens vont trouver leur intimité avec d'autres Italiens. Les Algériens vont être rassurés auprès d'autres Algériens. Les Polonais vont trouver un espèce de confort avec d'autres Polonais. Donc, il y a ce réflexe qui se met en place. Et donc là, par exemple, il y a la photographie d'un café algérien à Paris. Mais il en existe, enfin, il en existait de ces cafés ouvriers typiquement algériens, typiquement polonais, comme je vous le disais, à Reims, à Roubaix, etc. J'en ai pu retrouver la trace, disons, sur le terrain géographique. Et typiquement, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la volonté de se recréer une autre famille. Donc, on y pleure, on s'y partage ses secrets, on y rigole, on y joue de la musique. C'est la naissance d'une culture, infiniment riche. On y boit du thé, du café, bien souvent, de l'alcool. Et c'est précisément dans ces moments très intimes que vont naître les revendications politiques. Concernant l'Algérie, c'est à partir. En fait, ça arrive très tôt, mais à partir des années 50, ça va s'accélérer avec la guerre d'Algérie qui explose de l'autre côté. Donc, des revendications indépendantistes, des revendications décoloniales, et aussi, et là, je mobilise le tract qui est rédigé strictement en italien, des revendications sociales. Donc, il y a tout un, disons, une lecture par le militantisme à faire qui permet de retracer cette histoire de l'immigration parce qu'il va y avoir des revendications sur les conditions de travail, une inégalité qui est dénoncée par les ouvriers. Et là, vous voyez que le tract que j'ai trouvé aux archives de Châlons, il est traduit en français parce qu'en fait, ces lieux faisaient l'objet de surveillance. Donc, les tracts pour les Rémois étaient distribués notamment au marché Jean Jaurès, qui existe encore aujourd'hui, et étaient récupérés par la police. Et pour les lieux, ils étaient infiltrés par la police également. Donc, les agents se sont retrouvés à devoir apprendre le polonais, l'italien, le berbère, pour pouvoir comprendre, disons, ce qu'ils estimaient être une menace. C'est-à-dire que vraiment, on est dans un moment où les autorités, l'État avec un grand E, attend de la main-d'œuvre étrangère et coloniale recrutée presque une soumission totale. C'est-à-dire que le corps ne peut pas exister en dehors de son service à la nation ou de son service à l'usine. Et donc, par ces moments d'existence très forts, on va avoir une espèce de contrôle très intensifié au fil du temps pour taire ces moments qui montent crescendo au fil des événements politiques et des grèves. L'idée, c'est surtout que les représentations vont accompagner ces corps, et finalement, il est difficile de s'en défaire. Et c'est justement pour cela que je vous parle de ces moments d'existence, parce qu'il est question de donner un sens à sa présence en métropole. Parce qu'au début, ce qu'il s'avérait être un turco sympathique, très rapidement, ça devient un homme inculte que la colonisation est censée civiliser. Je vous parlais de ces soldats qui étaient vraiment bien accueillis quand ils passaient dans les villages du Nord-Est. Très rapidement, ils sont représentés dans cet argumentaire plus que déshumanisant, parce que là, on est dans une infériorisation et une animalisation des corps. Donc, le soldat héroïque devient un chimpanzé. Ça, c'est le cas des soldats à la peau noire. Et je vous épargne l'antisémitisme, où on retrouve cette dialectique associée à l'insecte. Et je vous le mentionne volontairement parce que très souvent, concernant les Algériens et les subsahariens, on retrouve un vocabulaire dans les rapports de police. Très souvent, ils sont présentés comme de la vermine. Donc, il y a un peu cette idée-là. Enfin, et je termine sur ce point-là parce que les minutes tournent. Tout ceci, tout ce que je viens de vous démontrer, n'est possible que par l'image. C'est pour ça que j'ai commencé par une image et que je conclue par une image. C'est-à-dire que j'ai commencé avec ces photographies, cette photographie des corps tels qu'ils sont représentés d'une façon héroïque. Mais finalement, ce qui prend le dessus tout au long du siècle concernant ces étrangers et ces coloniaux, c'est l'idée selon laquelle ils sont inférieurs. C'est vraiment cette idée-là qui va traverser toutes les sphères de la société. Et ces imaginaires, ces représentations permettent la tenue d'événements très concrets. C'est le cas des expositions, donc on est dans le grand moment des expositions, coloniales, industrielles ou universelles. Et le Nord-Est a particulièrement été friand de ces expositions. À Reims, en 1903, je vous mentionne Reims, non pas parce que j'y viens, mais parce qu'il y a eu des événements dont j'aimerais vous parler. À Reims, il y a eu 300 000 visiteurs, ce qui est assez énorme. C'est plus que la population actuelle de la ville. Donc, ces moments ont connu d'immenses succès, notamment dans le Nord-Est. Pourquoi dans le Nord-Est? Mon hypothèse, c'est que ces gens qui vivaient dans ces territoires étaient habitués, comme je l'expliquais, à vivre avec ces coloniaux et ces étrangers. Et d'une certaine façon, les expositions, dans leur imaginaire, leur permettaient d'en apprendre plus sur leur culture. Mais il faut bien comprendre que les expositions coloniales, comme c'est le cas de celle de Reims, ce sont, en tout cas, c'est pensé pour être une vitrine, celle du progrès, celle, en fait, plus que du progrès, de la supériorité. L'idée principale, c'est que vraiment la nation hôte, donc la nation qui reçoit, qui organise cet événement, doit être valorisée. Et disons, la parade qui est trouvée pour être valorisée, c'est d'inférioriser, de déshumaniser des sociétés jugées inférieures, primitives, donc les coloniser. Pour ce faire, pour ce village noir, je reprends les termes, on a 140 Sénégalais qui vont être récupérés au Sénégal directement et vont se produire un peu à l'image des troupes de cirque. On est vraiment là, j'utilisais Bourdieu pour ne pas parler de ces corps comme des objets, mais là on était vraiment dans ça. C'était vraiment des objets qui étaient exposés comme des bêtes de foire, la curiosité un peu malsaine motivait les passants à venir payer un franc pour pouvoir entrer dans ces villages noirs. Et donc, on a des Sénégalais, entre autres, parce qu'il y avait aussi d'autres peuples colonisés, qui travaillaient de 5h30 du matin jusqu'à minuit, si ce n'est plus, non-stop, et à la merci de ceux qui les embauchent. Là, il y a par exemple un dessinateur, il s'appelait Abdoulaye, et il était utilisé toute la journée pour proposer des dessins aux passants. Et dans ces villages noirs, on y trouvait un peu tout et n'importe quoi, donc des dessins, des bijoux, mais je parlais du corps en tant qu'objet. Les Sénégalais étaient obligés de danser, de proposer des musiques, en fait, de divertir le spectateur. Il y a eu des moments où il y avait beaucoup de visiteurs. Il y a une journée où 10 000 visiteurs ont été dénombrés. Il me semble que c'était le 10 juin. C'est le jour où il y a eu la reconstitution d'un marché aux esclaves. On a trouvé aussi des scènes de mariage, de circoncision, de prière. Évidemment, si on se met une minute à la place des figurants, c'est très dégradant, c'est très humiliant. Je vous ai épargné vraiment des images qui peuvent être difficiles à observer. Et pourquoi je vous mentionne Reims? Parce que dans les sources, c'est un des rares lieux, en tout cas selon les sources, où il y a eu des débordements importants. Rilly-la-Montagne, c'est un village qui n'est pas loin du tout de Reims. Il y a un village noir qui a été érigé à cette occasion, et les passants y jetaient des pierres sur ces gens, et il y a eu des débordements comme ça de façon très fréquente à Reims. Et donc, Malgré le succès fou de ces expositions coloniales, faut dénoter quand même qu'il y a eu parmi la population, notamment communiste, des oppositions fermes, notamment lors de la venue du gouvernement qui était venu parader comme ça entre les stands. La presse témoigne de tous ces stéréotypes. Les moukers, c'est les femmes arabes, et les négrillons, je cite, regardent platoniquement passer les visiteurs. Donc ça, c'est le journal L'Éclaireur de l'Est. Platoniquement, si on était un homme, disons, habitué à la propagande colonialiste, derrière le mot platonique, on pourrait tout simplement dire c'est des sociétés primitives, c'est des noirs et des arabes, donc ils sont paresseux. C'est comme ça qu'ils étaient représentés. Mais aujourd'hui, on peut totalement analyser le mot platonique comme étant une espèce de réaction naturelle du corps qui est celui de subir et d'une certaine façon de se presque de se dépersonnaliser afin de ne pas conscientiser ce que le corps est en train de subir. Et enfin, je vous disais que 300 000 personnes sont passées par cette exposition. Tout Reims est passé par le village noir. Cela témoigne évidemment de l'impact absolu de ces images et de ces événements sur les mentalités, donc à plus grande échelle, disons, sur les décisions de l'époque.
Radio Primitive, dernière partie de la conférence de la doctorante en histoire à l'université de Reims, Zina Saïdi, sur le thème « Le corps des étrangers et des coloniaux » pour le réseau Mémoire et Histoire de l'immigration dans le Grand Est.
Donc pour conclure, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ces corps au travail, ces corps abîmés, sont en fait tout au long du siècle des corps contrôlés et enfermés. Dans leur intimité la plus personnelle, tout y passe. Sexualité, alimentation, loisirs, plaisirs, ce que l'étranger fait de son corps n'est plus censé le regarder. Ces corps deviennent l'objet de débats, de décisions et de regards posés. Ces étrangers et ces coloniaux semblent perdre au fil du siècle ce qu'ils ont de plus humain, le corps en fait. L'émancipation du contrôle passe par une réappropriation afin de rester digne dans cet environnement hostile à l'existence, hostile à l'originalité, hostile à l'autre. Ces étrangers et ces coloniaux trouvent des moyens pour rester dignes, donc humains. Le collectif permet de garder le cap. L'esprit se conserve dans ces corps dépossédés par le militantisme, par l'art, par la musique, rendant d'une certaine façon un sens à l'existence.
Je trouve ça très très bien. Je veux dire deux ou trois remarques sur le fait que Zina a parlé d'immigrés et de coloniaux. Je préfère coloniser que coloniaux d'ailleurs, ça serait à mon avis plus précis. Je crois qu'il faut séparer les deux parce que, notamment pour le début du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, car les immigrés, par exemple européens, sont recrutés à partir de conventions qui ont été signés entre la République et les États étrangers, que ce soit la Pologne, l'Italie ou la Tchécoslovaquie à l'époque, et qui prévoit un certain nombre de garanties pour ces immigrés qui venaient travailler. Or, les colonisés n'avaient aucune garantie. Et moi, ça me rappelle, par exemple, ce que j'ai trouvé dans les archives en Alsace, que les colonisés qui se trouvaient présents se plaignaient que les Italiens étaient mieux traités qu'eux, alors qu'eux étaient des Français. Donc l'étranger était mieux traité que le Français, parce que justement les colonisés n'avaient aucun droit, aucune garantie qui était due par des accords binationaux. Une deuxième remarque que je veux faire, c'est si on peut repasser un peu dans le temps long, c'est de dire, c'est implicite dans votre exposé, et vous l'avez même dit au sujet du village de Kabylie, mais ces étrangers, ces immigrés qui viennent travailler en métropole, succède à une autre migration, qui est une immigration qu'on appelle maintenant l'exode rural, Mieke, qui était des campagnes vers les usines. Donc on connaît ça très très bien à Mulhouse, où vous aviez des gens qui venaient des montagnes vosgiennes et qui arrivaient en ville et qui étaient complètement perdus à la fois par la ville et par les usines. Et vous aviez même un exode transfrontalier, puisque de la forêt noire allemande ou des montagnes suisses, à l'époque la Suisse était très pauvre, venaient et se trouvaient pareil. On a un problème d'adaptation du rural à l'urbain, du paysan au monde industriel, et on le retrouve. Donc il continue encore après au XXe siècle, simplement on a un passage de frontières qui n'existait pas auparavant. Je fais une autre remarque. C'est donc le village noir de Reims. Vous avez la même chose à Strasbourg en 1924, et on l'appelle un zoo humain. Puis vous avez après la grande exposition de 1931 à Paris. Et ça me rappelle, je ne sais pas si vous avez tout le monde plus ou moins a dû l'entendre, les réflexions, vous savez, du footballeur Carambeu, qui avait son grand-père, qui se trouvait dans cette exposition coloniale de 1931 à Paris, et qui a essayé de s'enfuir, qui a été maltraité. Enfin, ça fait. Il raconte l'histoire de son grand-père, c'est tout à fait passionnant. Enfin, je ne vais pas accaparer la parole. Une dernière chose, vous avez parlé du corps qui est esquinté, tabassé, en fait. Tout ça, c'est très. Moi, j'ajouterais juste une petite chose, un corps méprisé. Et parler des Turcos, moi, je pense personnellement que les photos des Turcos sont des images de propagande coloniale et non pas pour mettre en valeur le Turco, pas du tout. Mais la deuxième chose, c'est que si on prend soit les guerres, soit notamment la Deuxième Guerre, et pour ce qui concerne ce que je connais bien, c'est-à-dire l'Alsace, lorsqu'il y a la poche de Colmar est libérée, qui c'est qu'on envoie en première ligne? C'est les Maghrébins, les Algériens et les Marocains, qui se font descendre allègrement. D'ailleurs, vous allez à Sigolsheim, qui est à côté de Colmar, vous avez un grand cimetière musulman, qui sont ces soldats colonisés, les colonisés devenus soldats. Et puis, vous avez ensuite, dès qu'ils ne sont plus, dès qu'ils gênent dans la population au début, pendant 6 mois, si vous voulez, ça va bien avec ces soldats-là. Puis, une fois qu'ils sont trop présents, on les renvoie très vite de l'autre côté de la Méditerranée et on les empêche de revenir. Il faut attendre 19, septembre 47 pour que de nouveau le passage de la Méditerranée soit possible. Donc il y a quand même ce côté du mépris, mais qui remonte, je crois, à très loin. Vous parlez très justement dans votre exposé, mais moi j'aurais fait remonter encore plus loin, j'aurais fait remonter à Bartolomé de Las Casas. Est-ce que les Indiens ont une âme? La controverse de Valladolid, et c'est la même chose qui se posait en d'autres termes, mais en gros, est-ce que ces Africains, est-ce que ces Algériens sont vraiment des hommes? Point d'interrogation.
Mais c'était un peu cette image qui m'apparaissait dans le mot platoniquement, en fait, dans cette phrase. C'est le côté déshumanisation, en fait. C'est plutôt ça. Hein. C'est le fait de, on a l'impression de voir des êtres sans âme, quoi, et sans intelligence, qui regardent passer l'intelligence, voilà. Comme des vaches dans un parc qui regardent passer les humains, quoi. C'est un peu cette idée-là que je ressentais, cette déshumanisation. Qui est forte. Cette phrase est forte, d'ailleurs, hein, dans la presse. On voit que c'était généralisé, quoi, que c'était vraiment le sens commun de la population. Quand on vient à 300 000, c'est ça? Voilà, ça montre bien que c'était complètement partagé par toute la population, cette propagande dont parle Yves, la propagande coloniale. Hein, c'était de la propagande. Bon,
Moi, je voudrais dire encore un mot, si vous me permettez. Zina a parlé dans son exposé d'Abdelmalek Sayad, le grand sociologue d'origine maghrébine. Et Abdelmalek Sayad dit dans un de ses articles d'ailleurs, c'est le travail qui fait naître l'immigré. Je cite de mémoire, hein, je ne connais pas par cœur, je ne l'ai pas appris par cœur, c'est l'absence de travail qui fait disparaître l'immigré. Je crois que ça, c'est aussi un aspect important du corps de l'immigré. Le corps de l'immigré n'est intéressant que s'il travaille. S'il ne travaille pas, il disparaît, il n'a plus aucune valeur. C'est très bien expliqué, mieux que ce que je le dis maintenant, par Abdelmalek Sayad.
Pour aller dans le même sens, au Musée national de l'histoire de l'immigration, il y a presque tous les travaux d'Abdelmalek Sayed, hein, toute une bibliothèque extraordinaire. Si ça vous intéresse, il suffit de contacter le Musée national de l'histoire de l'immigration. Il y a tous ces travaux.
Je voulais savoir ce que vous pensiez de la sculpture qui avait été faite à Reims en mémoire des tirailleurs et qui a été enlevée par les Allemands, je crois, à la Seconde Guerre mondiale et reconstruite il y a bien peu dans le parc Pommery. Alors, elle est totalement invisible, mais je crois que les corps là des tirailleurs étaient très valorisés, mais un peu fantasmés aussi, même si ça n'empêchait pas qu'on les méprise peut-être aussi.
Oui, alors cette statue, je suis allée la voir, disons, physiquement. Et il y a un collègue du CERIC qui a fait une thèse sur les tirailleurs sénégalais. C'était il y a quelques années maintenant, mais si ça vous intéresse le sujet, il me semble que c'est monsieur Docteur Sacco. Donc, si jamais les travaux sur les tirailleurs sénégalais vous intéressent. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que cette statue, elle a un espèce d'écho en Afrique.
Oui,
C'est-à-dire
à Bamako.
Oui, c'est ça exactement. Il y a une réplique en fait à Bamako et les corps, c'est un peu ce que Monsieur Frey disait, c'est-à-dire que on les représente un peu dignement comme ça avec de la force, etc. Mais c'est toujours dans un prisme assez colonialiste en fait. C'est l'usage du muscle et du corps tel qu'il est fantasmé et il s'inscrit toujours dans cet imaginaire. Donc c'est rarement, en tout cas par les populations, c'est rarement reçu comme une grande mise en valeur. J'avais toute une petite partie dédiée aux femmes et j'ai pas eu le temps malheureusement de détailler un peu ce point. Mais en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'hommes parce que on a cette réalité que, notamment concernant les Africains et les Asiatiques, c'était une immigration masculine. Concernant les Polonais et les Italiens, c'est plutôt différent. Mais lorsque j'ai soutenu mon mémoire sur les Algériens, j'ai avancé l'idée que concernant la Champagne, il n'y avait pas de femmes. Mais aujourd'hui, en faisant mes travaux de thèse, je trouve l'inverse. C'est-à-dire que j'ai trouvé des lettres rédigées par des Algériens qui demandaient explicitement la venue de leur épouse pour faire les tâches ménagères pendant que le mari est à l'usine, en fait, concrètement. Et donc, ils demandaient au préfet des laissez-passer pour leur épouse. Donc, en fait, il y avait quand même des femmes colonisées. Et évidemment, j'avais prévu de détailler toutes ces représentations que j'ai sous-entendues un peu par rapport à l'exposition coloniale de Reims, en plus de subir tout l'argumentaire raciste, elle subissait évidemment tous les abus et violences sexistes que toutes les femmes subissaient, notamment dans ce XXe siècle. Mais à cela, il faut ajouter un fantasme assez particulier. Je vais me faire brève et je vous renvoie vers les travaux de Frantz Fanon et Edward Said, qui ont parfaitement bien concernant les corps plutôt nord-africains. Des Nord-Africaines qui ont travaillé sur cet aspect très orientaliste qui sous-entendait l'accessibilité, la disponibilité des corps arabes, femmes, ce qui laissait apparaître malheureusement de nombreux abus sexuels, beaucoup de viols. C'était très lié à la colonisation et on retrouvait ça aussi en métropole.
Merci à Zina Saïdi, doctorante en histoire à l'Université de Reims et au réseau Mémoire et Histoire de l'immigration dans le Grand Est, de nous avoir conviés à cette conférence sur l'immigration sur le thème Le corps des étrangers et des coloniaux. Une conférence à retrouver entièrement et à tout moment en podcast sur radioprimitive.fr, accompagnée des photos et documentations évoquées. Passez une belle journée sur Radio Primitive.